Radio Capi, grand témoin.
En marge de l'arrivée du pape François à Kinshasa, grand témoin reçoit le professeur Florentin Mokonda Bonza, qui a rencontré feu le pape Jean-Paul II à trois reprises, dont deux à Kinshasa en 1980 et 1985, et une fois à Rome. Plusieurs fois ministre sous le régime de feu le maréchal Mobutu, dont il avait aussi été le directeur de cabinet, candidat à la présidentielle de 2006, sénateur honoraire et catholique pratiquant. Professeur Florentin Mokonda Bonza, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, professeur?
Je me porte bien, grâce à Dieu.
Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année 2023.
C'est très gentil de votre part et je vous le réciproque.
Le pape François arrive à Kinshasa du 31 janvier au 3 mars. Nous vous recevons dans l'émission Grand Témoin pour parler avec vous d'une page d'histoire. Ce n'est pas le premier pape qui arrive en RDC. Il y a le pape Jean-Paul II qui est arrivé à deux reprises en RDC, à l'époque Zaïre, en 1980 et 85. On va refaire un peu cette page d'histoire avec vous et revenir aux enjeux politiques également qui entourent l'arrivée du pape François et les attentes du peuple congolais. Pour commencer, professeur, il y a une certaine génération qui ne vous connaît pas. Est-ce que le professeur Mokonda peut se présenter lui-même?
Je suis professeur Mokonda, professeur à la faculté des sciences économiques depuis 1983. Maintenant, je suis pratiquement à la fin de ma carrière académique. Je suis professeur ordinaire. Je crois que très prochainement, je vais solliciter mon éméritat. J'ai eu la grâce dans ma vie d'avoir exercé un certain nombre de fonctions. J'étais conseiller du Premier ministre. J'étais secrétaire d'État, ça veut dire vice-ministre. J'étais commissaire d'État, ça veut dire ministre dans plusieurs ministères, notamment le portefeuille, l'enseignement supérieur universitaire, l'économie nationale, l'industrie, le développement rural, encore une fois l'enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique, et encore une fois, une deuxième fois, l'économie nationale et l'industrie. J'étais directeur du bureau du président Mobutu pendant 3 ans et demi. J'étais sénateur élu en 2007. Je suis resté donc au Sénat de 2007 jusqu'à 2019, après l'élection du nouveau Sénat. Donc voilà pour le moment. Je suis sénateur honoraire et je suis toujours professeur à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa.
Vous avez oublié, professeur, l'épisode où vous avez été candidat à la présidentielle.
Oui, c'est vrai. En 2006, j'étais un des candidats malheureux à la présidence de la République. Vous savez, dans notre pays, on ne vote jamais le programme.
Alors, professeur, le 2 mai 1980, le pape Jean-Paul II visite l'Afrique et choisit le Zaïre comme première destination. À l'époque, où étiez-vous?
Justement, en 1980, j'étais conseiller du Premier ministre, on disait Premier commissaire d'État, André Bobolico. Le pape est arrivé, il y a eu la grande messe sur l'esplanade du Palais du Peuple, messe au cours de laquelle 5 évêques ont été ordonnés. Si mes souvenirs sont bons, il y a Monseigneur Mosengo, Monseigneur Nkinga, Monseigneur Baba Gongwa, Monseigneur Mambe, le cinquième, j'ai oublié le nom. Mais 5 évêques étaient ordonnés ce jour-là. Et moi-même, comme conseiller du Premier ministre, j'étais au Palais du Peuple à une position où je suivais très très bien la messe. À l'époque, nous étions à peine une vingtaine de conseillers. C'est pas comme aujourd'hui, on a des centaines et des centaines.
Il faut signaler, professeur, que vous êtes également un catholique pratiquant.
Oui, je suis catholique. Mes parents m'ont fait baptiser alors que j'avais à peine 1 an. Et j'ai étudié que dans les écoles catholiques, chez les frères maristes, et un petit temps chez le père du Sacré-Cœur à Kisangani. Je suis donc un catholique pratiquant, j'appartiens à plusieurs organisations catholiques.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui a milité au choix du pape Jean-Paul II de venir au Zaïre en 1980?
Je crois, hier comme aujourd'hui, je pense qu'il y a une raison fondamentale. Un, le Congo ou le Zaïre d'hier, c'est le plus grand pays catholique du continent africain. Donc, c'est un facteur important pour les chefs de l'Église catholique. Deuxième raison, le travail fait par les théologiens congolais est un travail qui a été reconnu en Afrique et au Vatican. On a connu des très grands théologiens dans ces pays et on en a encore aujourd'hui. Et donc ce sont tous ces pasteurs de l'Église catholique qui apportent une contribution dans la réflexion, dans la nouvelle théologie dans le monde. Et je crois que le chef de l'Église catholique ne peut pas ignorer le travail qui est fait par les évêques, les prêtres et l'ensemble des théologiens congolais.
Et à ce moment-là, déjà, si je ne me trompe pas également, on commençait à parler du rite zaïrois.
Oui,
parce que le cardinal Maloula.
Oui, parce que le rite zaïrois a commencé, disons, les années 70, bien avant l'arrivée de Jean-Paul II comme pape. Et pendant que le concile de Vatican II se tenait, les années 62-63, j'étais encore jeune élève chez le frère Mariste à Bouta, nous chantions déjà beaucoup de chants en Lingala.
Dans la messe.
À la messe. Déjà beaucoup de chants en Lingala.
La liturgie était déjà adaptée.
Adaptée. Et ça, c'est le fruit du travail fait par nos théologiens, par nos prêtres au sein de l'Église catholique du Congo. Et ça fait que plus tard, le rite zaïrois a été introduit. Il ne s'est pas imposé, mais je crois que Rome, tout le monde a vu l'importance du rite, la manière dont il y avait une forte participation de chrétiens.
Une ferveur, une joie.
Ah oui, la messe vibre. C'est pas de messe comme celle auxquelles nous avions assisté quand nous étions tout petits.
En latin.
Ou en latin que les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, des messes en Lingala ou même des messes en français, ça permet à tout le monde de suivre. Et ça, je crois que les rites zaïrois a apporté un élément tout à fait exceptionnel au niveau de l'Église catholique.
On le sait, le pape Jean-Paul II, c'était quelqu'un de très ouvert. Hein, mais à ce moment-là, quel était le contexte politique et économique? On sait que quelques années avant, c'était la zaïrianisation, c'était le recours à l'authenticité, c'était agriculture priorité des priorités, qu'on avait un parti unique. Est-ce que le pape n'a pas redouté tout ça au point d'aller au-delà de toutes ces considérations et venir au Zaïre?
C'est vrai qu'en ce moment-là, nous avions le parti unique. On n'était pas de communistes, on n'était pas communisants, mais on avait un parti unique avec un peu une tendance autoritaire que les gens souvent qualifient de dictatoriale. Il faut aussi dire que quelques années plus tôt, il y a eu un conflit entre le pouvoir et l'Église. Ce conflit a fait que le cardinal Maloula, sa résidence a été réquisitionnée et est devenue d'ailleurs le bureau de la JMPR à l'époque. Le cardinal s'est retiré à Rome, il était presque en exil. Bien sûr qu'après, il y a eu réconciliation. Quelques années plus tard, il y a eu réconciliation. C'est à l'issue de cette réconciliation que l'actuel Lindongue a été construit, donc par le pouvoir, en guise de réconciliation.
Le centre Lindongue de Kauka.
Oui, là où habite le cardinal, là où il travaille, et ainsi de suite. Je crois que le pape Jean-Paul II, lui aussi, venait d'un pays qui a connu le communisme.
La Pologne.
La Pologne. L'autoritarisme, la dictature, et ainsi de suite. Je crois que dans son combat, c'était aussi, non seulement dans notre pays, mais dans le monde, pour qu'il y ait un peu plus de liberté. Parce que Dieu nous a créés des êtres libres. Nous a créés des êtres libres. Je crois que dans son combat aussi, à travers le monde, c'était la libéralisation des systèmes politiques qui existaient. Et on a vu ce qu'il a fait personnellement pour son propre pays d'origine.
À l'époque, il faut signaler, on l'a dit, on l'a effleuré, la présence du cardinal Albert-Joseph Maloula. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu son portrait?
Le cardinal Maloula, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, fut une forte personnalité. Un homme intelligent, un patriote. Parce que déjà, avant l'indépendance, il s'était déjà engagé dans un contexte de, comment on dit, amener notre pays à son indépendance. Il encadrait déjà un certain nombre de chrétiens catholiques, et c'est dans le cadre de cet encadrement que ces chrétiens vont répondre au plan de 30 ans du professeur Van Bilsen, qui était professeur à l'université d'Anvers en Belgique. Et ce groupe de chrétiens qui tournait autour du cardinal, à l'époque abbé, va rédiger ce qu'on a toujours appelé les manifestes de la conscience africaine, qui est le premier document officiel rédigé par les Congolais et qui traitait de leur émancipation et qui envisageait déjà entre les lignes la décolonisation. Et ça, le cardinal, alors abbé, a joué un très grand rôle. Le cardinal, quand il devient évêque de Kinshasa, dans le discours qu'il a prononcé au stade Tata Raphaël, il y a une phrase qui est restée historique et légendaire. Une église congolaise dans un état congolais. C'était prémonitoire. Donc, à ce que nous avons appelé tout à l'heure rite zaïlois. Cette inculturation qui tienne compte de nos valeurs culturelles ancestrales.
De notre contexte.
De notre contexte. Pour nous adresser à notre Seigneur, sans nécessairement que ce soit la manière dont les Européens ou d'autres le font.
À notre manière.
À notre manière.
Professeur, vous êtes économiste. À l'époque, l'économie du Zaïre commençait déjà à vaciller.
Oui, c'est-à-dire que l'économie de notre pays a connu plusieurs phases. Je parle de la pré-indépendance. Entre 1960 et 1966, ce fut la phase pratiquement où l'économie était en baisse, étant donné toutes les divisions qu'on a connues dans le pays, l'État indépendant du Katanga, à un certain moment, tout au début, les Sud-Kassai, qui avaient aussi son autonomie, et puis l'Est du pays, la province orientale et Kivu, et tout ça a fonctionné jusqu'au moment de la réunification vers la fin des années 63, et tout ça a eu un impact sur l'économie. La rébellion qui a ravagé une bonne partie du pays a également eu un impact négatif sur l'économie. À partir des années 67, c'est une nouvelle phase, c'est une reprise. La paix est rétablie sur une grande partie de la République, les investissements reprennent et les cours du cuivre à partir de l'année 67 montent en flèche. Les Congos se retrouvent avec un matelas important de devises et des investissements à gauche et à droite dans le secteur agricole, dans le secteur agro-industriel, dans le secteur industriel. Et l'économie se porte très bien de 67 jusqu'à plus ou moins 74.
Avec la Gécamines qui fonctionnait à plein régime.
Avec la Gécamines qui fonctionnait à plein régime, mais qui ne produisait pas encore autant qu'au milieu des années 80. C'est au milieu des années 80 que la Gécamines a commencé à produire 480 000 tonnes de cuivre. Et donc, mais avec la zarianisation en 73 et la radicalisation fin 74, on va connaître une période un peu moins brillante. Les années 80, c'est des plans de stabilisation économique et financière, et puis viendra le programme d'ajustement structurel les années 83. Donc quand le pape vient pour la première fois en 1980, en ce moment-là, c'est des tentatives avec le Fonds monétaire, avec la Banque mondiale, pour le financement de l'agriculture, afin de relever un peu le produit intérieur brut et d'assurer l'autosuffisance alimentaire, de faire en sorte que partout dans les villages, l'économie rurale puisse se développer.
Avec le slogan « Agriculture, priorité des priorités ».
Qui a commencé depuis le début, qui malheureusement n'a pas toujours donné les résultats escomptés.
Dans l'histoire du Zaïre, du Congo, professeur Florentin Mukonda Bonza, comment vous expliquez ce rapport entre l'Église et l'État, rapport parfois en dents de scie, parfois un mariage, je t'aime moi non plus.
Avant l'indépendance, c'était la parfaite collaboration entre l'État et l'Église.
L'un s'est substitué pratiquement à l'autre.
Dans la mesure où l'État s'appuyait, entre autres, sur l'Église, en matière de formation, en matière d'éducation, et aussi, il faut le dire, en matière de lavage des cerveaux, et ainsi de suite. Entre 60 et 65, j'étais jeune, je n'ai pas cru entendre qu'il y avait vraiment de grands problèmes entre le pouvoir, le président Kassavubu, à l'époque, ou son premier ministre Cyril Adoula. Tshombe viendra remplacer Cyril Adoula, qui avait vraiment des problèmes.
Le président Kassavubu lui-même, un ancien séminariste.
Un ancien grand séminariste, un catholique pratiquant. Mais je crois que les problèmes ont commencé quand le président Mobutu et ses collaborateurs ont, à un certain moment, pour asseoir le pouvoir, leurs idées, leurs nouvelles visions, ils ont parlé du retour à l'authenticité. C'est à ce moment-là que le problème, à mon sens, que le problème a commencé. Et l'Église, par la bouche notamment du cardinal, réagira pour dire non, on ne peut pas retourner à l'authenticité, mais on peut recourir. Et ce conflit a amené, si aujourd'hui il y a plusieurs fêtes catholiques qui tombent pendant les 6 jours de la semaine, ne sont plus fêtés que les dimanches, c'est à partir de ce moment-là. C'est pendant cette crise-là, entre l'Église et le pouvoir. Et cela est resté. C'est aussi ce conflit-là qui a amené à la nationalisation des universités, l'Université Lovanium, l'Université libre du Congo, qui est une université protestante, et plus tard, la nationalisation des écoles. Et avec la réconciliation, on a donc dû signer une convention entre l'État et les anciens propriétaires des écoles, ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles conventionnées catholiques, les écoles conventionnées protestantes. Donc tout ça, c'est la suite de tous les conflits qu'il y a eu entre l'Église et le pouvoir. Mais ça, il n'y a pas qu'au Congo. L'histoire montre que partout dans le monde, on a connu ce type de problème où il fut une période où l'Église était à la solde de rois, mais des périodes où l'Église ne voulait plus dépendre du roi, et je ne rentrerai pas dans tout ça, comme journaliste, vous le savez très bien.
Congo Kinshasa sepela, Congo RDC ganga nasai.
Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous envoyer ton messager, le pape François. Sa sainteté, le peuple congolais te souhaite la bienvenue sur la terre de ses ancêtres. Caribou.
Caribou, caribou, caribou.
Tata cardinal Fridolin Ambongo. Ayo to sangani pana koyamba ayo. Mon santo papa François.
Oye imala muna Congo.
Ayo. Yambi yambi. Oye imala.
Yambi yambi papa.
Kani pe liboke
et je suis kana Congo
Karibu motema polele bina sa yo mitema
Toyambie na babele ya bakoko
Mokita nyasa ntufeko motinda mi ya Kristu Sois le bienvenu
Katina Yesu
Eswa esika Karibu
Makelele ya mandoki Tolembi Otangisa makila ya bato topoi
Kukuna bibembe tango iso eleki
Topoi kotele ngana katina poka na biso moko kongo
Karibu,
karibu, karibu, karibu. Oye, bolamo, jilwa, jilema, papa. Ngezu, amote, karibu.
Namoka eta umalula mosengo pasinya.
Karibu.
Tupe saisika na makele lambonda.
Pelindanda.
Oh, pesa.
Papa wa Roma, wewa mkubi wa Ekezio
Batata ba mama batonde yo botondi
Weka mpade Banda dilenge bakoko bapesi yo lokumu
Weka mpade Karibu sura plantifo kombo Le pasteur de l'église universelle
Tifika jile matatu
Serviteur des serviteurs, bienvenue au Congo,
la terre de nos ancêtres.
Les aïeux papa libosso, biso bilenge to monina miso.
Mokitani, y'a sans tout pétro.
Y'a molo belia babola, babola, awa onse.
Sentiamo l'allegria di accogliere il Santo Padre.
Uja kwako umetupatia matumaini.
Karibu papa.
Vita imalizike na Kongo.
Grand témoin.
En marge de l'arrivée du pape François à Kinshasa, grand témoin reçoit le professeur Florentin Mokonda Bonza, qui a rencontré feu le pape Jean-Paul II à 3 reprises, dont 2 à Kinshasa en 1980 et 1985, et une fois à Rome. Plusieurs fois ministre sous le régime de feu le maréchal Mobutu, dont il avait aussi été le directeur de cabinet, candidat à la présidentielle de 2006, sénateur honoraire et catholique pratiquant. En août 1985, professeur, le pape revient pour la deuxième fois au Zaïre. À ce moment-là, le 5 décembre 1984, le président Mobutu lance le septennat du social, 1984-1991. En 1982, il devient maréchal. Le pape revient pratiquement au moment où le Zaïre célébrait ses 25 ans d'indépendance.
Je crois que le pape est revenu cette fois-là, c'était pour la béatification d'Anwarite, qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame du Saint-Rosaire de Kisangani. Comme vous avez dit, c'était en août 1985. La volonté du pape d'aller jusqu'à Kisangani, il aurait pu béatifier Anwarite
à Kinshasa
ou à Rome. Par exemple, Isidore Bakanja a été béatifié à Rome. Mais le pape connaissait l'évêque de Kisangani, Monseigneur Augustin Fataki. Il s'est fait que, lors du concile, ils ont eu à se côtoyer et à faire connaissance. Et donc, son désir d'aller à Kisangani, c'était aussi pour voir un ami, un confrère avec qui on était évêque, et qui est archevêque de Kisangani. Et comme il se faisait que il était donc archevêque métropolitain de l'ancienne province orientale, et Anwarite ayant été une religieuse du diocèse de Wamba, qui dépend donc de l'archidiocèse de Kisangani, donc le pape a peut-être voulu rendre visite à Monseigneur Fataki dans son diocèse, et alors en profiter pour béatifier Anwarite sur la terre de ses ancêtres. Au cours de ces voyages-là, j'étais, on disait, commissaire d'État, j'étais ministre en 85, au mois d'août, j'étais ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Le président Mobutu a reçu le pape à sa résidence privée du camp Tchatchi, et tous les membres du gouvernement étaient là. Et j'étais là. J'ai eu l'occasion de serrer la main du pape. Pour moi, c'était la deuxième fois que je serrais la main du pape. La première fois, c'était en 84 à Rome même, au Vatican. Je me trouvais en visite à Rome, et notre ambassadeur auprès du Vatican, à ma demande, a organisé, dans le cadre de l'audience que le pape a l'habitude d'accorder aux différentes délégations tous les mercredis, même aujourd'hui cela continue. Et c'est l'occasion que j'avais eu, ma première occasion que j'ai eu, et l'unique occasion que j'ai de parler au pape. Parce que là, quand on m'a présenté, il s'est arrêté, il m'a posé des questions, j'ai eu un échange comme ça de 2 minutes avec lui, et ces jours-là, je croyais avoir parlé à Dieu.
Et ce n'est pas donné à tout le monde, ce il faut le
donné,
reconnaître.
Ce n'est pas donné à tout le monde.
On parlait tout à l'heure du maréchal Mobutu, catholique pratiquant. Parlez-nous un peu de lui, dans cette optique-là.
Bon, le maréchal Mobutu fut un homme comme vous et moi, avec ses défauts, avec ses qualités, et ainsi de suite. J'ai eu la grâce de vivre avec lui, comme directeur de son cabinet, pendant 3 années et demie, et ce que j'ai constaté en lui, c'était qu'il ne voulait jamais rater la messe du dimanche. Je me rappelle à plusieurs endroits au pays comme à l'étranger d'avoir été avec lui à la messe le dimanche. Il aimait les chants grégoriens. Il aimait véritablement les chants grégoriens. À telle enseigne que, dans sa chapelle construite à Bado, il y avait une chorale. Il allait toujours à sa messe, on ne chantait que les grégoriens. Et Il a acheté des orgues en Allemagne. On a fabriqué des orgues pour sa chapelle. Il a envoyé en Allemagne un organiste pour être formé. Et les jours de l'inauguration de la chapelle et des orgues, j'étais là. C'était en 88. C'est l'organiste adjoint de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été invité pour venir accompagner la messe. C'était formidable. Je me rappelle encore, toujours en 88, le président Mobutu visitant un couvent de bénédictins au sud de la France, dans les environs d'Avignon. Le monastère s'appelle Monastère Sainte-Madeleine du Barou. J'ai accompagné le président de la République, je crois, deux ou trois fois. Il a trouvé que le monastère avait commencé un certain nombre de travaux, mais qui n'arrivait pas à achever, faute de moyens. Et il avait remis une forte somme à ces monastères. Et les monastères, en remerciement, ils ont mis un des hôtels de cette église-là, dédié au Zaïre. Et c'est le président Mobutu qui a donné le nom. Et le nom, c'était Marie la Miséricorde du Zaïre. Et le jour où nous sommes allés pour la dédicace de cet hôtel, le président Mobutu a amené des badauds, sa chorale, qui a chanté à cette église-là. C'était formidable.
Comme pour exporter le rite zaïrois.
Le moine n'en revenait pas de voir ce petit noir. À la fin d'automne, pratiquement, il faisait froid. Ils ont quitté leur pays chaud, dans la forêt, là-bas équatoriale, pour aller chanter en France. Donc, ce fut vraiment un catholique pratiquant. Bon, nous, chrétiens, nous, catholiques, nous sommes tous des pécheurs.
Comme tout le monde, d'ailleurs.
Nous sommes tous des pécheurs. Ce que, je crois, on nous demande, c'est chaque fois de nous repentir. Même si on tombe, il faut apprendre à se relever et aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire sur le président Mobutu.
Radio Capi, grand témoin.
En marge de l'arrivée du pape François à Kinshasa, grand témoin reçoit le professeur Florentin Mokonda Bonza, qui a rencontré feu le pape Jean-Paul II à trois reprises, dont deux à Kinshasa en 1980 et 1985, et une fois à Rome. Plusieurs fois ministre sous le régime de feu le maréchal Mobutu, dont il avait aussi été le directeur de cabinet, candidat à la présidentielle de 2006, sénateur honoraire et catholique pratiquant.
Revenons maintenant aujourd'hui, professeur. Le pape François arrive du 31 janvier au 3 février 2023 ici à Kinshasa, dans un contexte où l'Est pratiquement est à feu et à sang, avec tous ces groupes armés, le M23, CODECO, ADF, FDLR. Quelle est votre analyse en ce moment où le pape doit arriver ici en RDC?
Je ne suis pas dans le secret du pape. Pour ma part, je pense que le pape vient, comme je l'avais dit au début, dans ces plus grands pays catholiques d'Afrique, la République démocratique du Congo. D'après les statistiques, on doit être aujourd'hui au minimum 46 millions de catholiques. Et en Afrique, on est le tout premier pays catholique. On est en guerre, pour moi, depuis au moins 25 ans. Depuis que l'AFDEL, avec ses alliés ougandais, rwandais et burundais, étaient entrés au Congo à partir de septembre-octobre 1996 jusqu'à aujourd'hui, le Kivu n'a jamais connu la paix. Même si apparemment à Bukavu tout va bien, à Goma tout est calme, mais à Rutshuru il y a toujours des problèmes. À Masisi, il y a toujours des problèmes. À Walikale, il y a toujours des problèmes.
À Uvira,
il y a toujours des problèmes. À Mwenga, il y a toujours des problèmes. D'ailleurs, une étude du GIEC,
le groupe d'études sur le Congo,
a identifié au moins 120 groupes armés, rien que dans la partie est du pays. Donc, le contexte de la visite du pape, c'est d'un côté le contexte de guerre. Et l'Église a toujours œuvré pour la paix. Jésus lui-même, quand il arrivait quelque part, c'était toujours paix. Quand il envoyait ses apôtres, il insistait toujours sur la paix. Vous arrivez quelque part, la paix. Donc, je peux espérer que la visite du pape pourrait peut-être apporter quelque chose au retour de la paix dans notre pays. Le pape vient aussi, il faut le dire, contexte de la guerre, mais contexte d'un risque de balkanisation. Le secrétaire général de l'ONU lui-même a dit publiquement que même la MONUSCO est moins bien équipée que les M23. Comment un mouvement rebelle peut-il être mieux équipé qu'une force internationale? Donc ça veut dire que le problème est très sérieux. Comment les M23 a-t-il reçu tous ces équipements? Même si on dit que c'est le Rwanda et ainsi de suite. Mais le Rwanda, lui, ne fabrique pas des armes. Ça veut dire que ces armes sont venues de quelque part. Et ces gens qui ont envoyé des armes au Rwanda pour que ces armes tuent au Congo savaient très bien quelle serait la finalité de ces armes. Donc, je pense que la venue du pape pourrait être une opportunité pour le pouvoir, pour l'Église, pour l'ensemble de la société civile, de plaider la cause de notre pays. Parce que nous, on n'a jamais attaqué un seul pays voisin. Mais nous sommes aujourd'hui victimes de ressources dont notre pays a été doté par Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui ont mis dans notre sous-sol les cuivres, les coltans, l'or, les diamants, les niobiums et que sais-je. Donc, les guerres sont favorisés dans notre pays pour permettre à certaines puissances d'acquérir à un prix dérisoire nos matières premières, à notre détriment. Et je pense que ce contexte-là est important pour que le pape, en arrivant ici, s'en rende compte lui-même. En lisant à gauche et à droite, j'ai découvert que la diplomatie du Vatican est l'une des plus anciennes et aussi l'une des mieux organisées. Le pape, c'est une autorité morale qui est reconnue par tout le monde. Et donc, la visite du pape est un grand événement pour nous, un grand événement pour l'Afrique. Le Congo se trouve au cœur même de l'Afrique. Nous pouvons donc espérer que le pape et ceux qui vont l'accompagner comprendront mieux les problèmes qui sont les nôtres. Puisqu'il a accepté de venir ici malgré qu'il a des ennuis de santé, c'est qu'il est aussi quelque part préoccupé par la situation de ces plus grands pays catholiques du continent africain. Ça doit les préoccuper. Nous avons combien? 47 diocèses. Nous devrions même en avoir plus. Et je crois que nous prions tous pour lui. Nous prions tous pour que son séjour dans notre pays puisse nous être bénéfique.
Professeur Florentin Mokonda-Bonza, le pape arrive dans un contexte électoral et on assiste en ce moment à des messages de haine, des politiciens qui s'invectivent les uns contre les autres en public, qui traitent tels d'étrangers. Vous avez parlé d'une diplomatie forte du Vatican et le nonce apostolique, dans une interview qu'on a diffusée sur Radio Okapi, a appelé tous les Congolais à travailler les uns avec les autres et non les uns contre les autres.
Merci beaucoup pour la question. Je pense que nous, Congolais, nous avons ce qu'on appelle la cécité politique.
C'est-à-dire?
Nous sommes des aveugles. Nous sommes en train de nous bagarrer pour des futilités. Je disais dans une interview que j'avais accordée à un journaliste, que vous devez très bien connaître, je disais qu'au Congo, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Battez-vous d'abord pour qu'il y ait un État. On a un pays, mais il n'y a pas d'État. Il n'y a que des individus. Vous, moi, ou le président de la République, nous ne sommes que des individus. Ici, ce qui est important, c'est que cette personne morale dite État, qu'elle manifeste sa puissance. Voilà pourquoi, en théorie, on l'appelle la puissance publique. L'État a la puissance publique de mettre de l'ordre, de faire en sorte que son autorité soit ressentie sur chaque coin et recoin dans un territoire bien déterminé. On se bagarre, on fait du tribalisme, on exclut les uns et les autres. Mais là, l'essentiel n'est pas à ce niveau-là. L'essentiel, c'est que nous sommes en train de perdre notre pays. C'est ça d'abord l'essentiel. Nous devons d'abord nous battre pour l'existence de notre pays. Parce que les élections, on a déjà fait combien d'élections? Moi-même, vous avez rappelé, j'étais candidat en 2006. Mais en 2006, ce n'était pas Joseph Kabila qui était élu. Pour le commun des mortels, c'est Joseph Kabila. Mais pour des personnes informées, ce n'est pas Joseph Kabila. Et donc, les élections n'ont du sens que là où l'électeur, quand il a fait son choix, ce choix est respecté. L'élection n'a de sens que là où l'État a le contrôle sur l'ensemble de son territoire. Toi, tu connais combien de gens il y a dans la ville de Kinshasa? Qui peut dire aujourd'hui que nous sommes autant dans la ville de Kinshasa? Il n'y a personne. Qui entre dans la ville? Qui en sort? Personne. Mais cet aspect du problème-là, les Congolais ne s'en occupent pas. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Les élections, parce qu'ils savent qu'ils vont encore une fois acheter les consciences, et avant d'acheter les consciences, ils vont détourner de l'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je pense que tout cela, ça nous divise, et nos ennemis nous divisent également. Puisque nous avons la cécité, nous ne voyons pas que ce sont les ennemis qui sont à la manœuvre. Nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg, mais on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que le chef de l'État devrait faire, lui qui a l'impérium, c'est de faire en sorte qu'il puisse regrouper tout le monde. Nous devons d'abord tous nous battre pour l'intégrité de notre territoire. Même si nous allons aux élections, mais nous ne devons pas y aller en ordre dispersé. Parce que si vous allez en ordre dispersé, on dit qu'un royaume qui est divisé, c'est ce qui est dit dans la Bible, un royaume qui est divisé
est appelé à disparaître.
Il est déjà perdu, il est appelé à disparaître. Donc, nous avons un grand pays. Et les gens ont tous des yeux sur notre pays. De la convoitise, de l'envie, de la jalousie. Si nous sommes divisés, nous sommes perdants. Nous devons nous remettre ensemble, nous devons nous remobiliser de telle manière que nous soyons plus forts pour combattre l'ennemi. Et l'ennemi, il n'y a pas que l'ennemi que nous voyons. Il y a aussi des ennemis qui sont tapis dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Et comme nous sommes des aveugles, encore, déjà nous ne voyons même pas ceux qui sont avec nous. Comment voulez-vous que nous voyons les autres? Donc peut-être que tu disais que le nonce apostolique avait lancé un message. Ce message-là, je pense qu'il faudrait aussi que le pape y revienne. Qu'il puisse exhorter les politiques congolais à être unis, la population congolaise à travailler ensemble. Et c'est de cette manière seulement que nous pourrions mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est, où chaque jour vous apprenez que à Bunia, à Djougou, Yaba, Yakodeko, il y a ceci, vous avez cité vous-même, mais vous n'avez cité que peut-être 4 ou 5 mouvements sur les 120 qui existent et qui chaque jour commettent des dégâts humains, environnementaux et sociaux, économiques, partout où ces mouvements évoluent. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment une priorité. Je pense que le pape pourra aussi en parler, parce qu'un grand pays comme le nôtre, qui vit dans la situation telle que nous connaissons aujourd'hui, c'est un pays qui est appelé à disparaître. Or, nous ne pouvons pas disparaître.
Alors, professeur, notre émission est en train de tendre petit à petit vers sa fin. Est-ce que l'arrivée du pape François pourrait constituer un déclic par rapport à ce paradoxe où on dit de la RDC, vous l'avez rappelé, plus grand pays catholique, plus grand pays chrétien, mais pas développé?
Oui, mais là, qu'est-ce que le pape peut faire? Si notre pays n'est pas développé, C'est à cause de notre comportement. Ce sont nos turpitudes. Et cette turpitude, c'est depuis l'indépendance. C'est nous les dirigeants qui ne savons pas exactement où nous devons amener le peuple. C'est à nous de pouvoir mettre en place des mécanismes pour la valorisation des ressources naturelles congolaises. Ce n'est que la valorisation des ressources naturelles congolaises qui pourront permettre d'augmenter les revenus nationaux. Et si les revenus nationaux augmentent, maintenant il faudrait le redistribuer d'une manière telle que, je ne dis pas égalitaire, mais ne fût-ce qu'équitable pour que les gens mangent à leur faim, qu'ils soient logés décemment, qu'ils puissent circuler, qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils puissent se faire soigner. Le pape peut tenir un sermon, mais si nous, nous ne voulons pas évoluer, si nous ne voulons pas changer, si nous ne voulons pas nous repentir de la manière dont nous gérons aujourd'hui très mal, hier comme aujourd'hui, très mal notre pays. C'est pas normal que dans un pays, tu n'apprennes chaque jour que dans tel ministère, $1 million a disparu. Et on vous dit que $1 million a disparu, c'est une secrétaire, c'est ainsi, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous apprenez, 50 millions ont disparu. Ah, on a prévu autant là-bas pour un projet, je ne sais pas moi dans quel coin, on a mis autant et rien n'a été fait. Ou, soi-disant, on nous dit, tiens, X a détourné de l'argent, on le juge, on le met en prison, quelques temps plus tard,
il est libre.
Or, on dit, tiens, tel a fait ceci, on le met en prison, et puis, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Ce n'est pas avec la théâtralisation que nous allons développer notre pays. Nous allons développer notre pays par le travail, par notre manière d'encadrer la population pour la mettre au travail, par notre manière de pouvoir établir plus de justice dans le pays pour que ceux qui ont contribué à la production reçoivent leur part de rémunération pour le travail qu'ils ont accompli. Et là, je ne crois pas que ce soit le pape qui fasse quelque chose pour nous. Personne d'autre ne pourra faire quelque chose pour nous. Ni le président des États-Unis, ni celui de France, ni celui de Chine, ni celui de Russie, ni... C'est à nous. C'est à nous. Et je crois que le défi, c'est, je ne dirais pas le peuple congolais, mais l'élite politique congolaise. Parce que c'est elle qui se bat pour le pouvoir.
Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour. Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga.
Oh, et fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo Sa Sainteté le Pape François dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ.
Pour terminer, professeur, un message complémentaire à celui que vous venez de lancer à cette élite et à tous les jeunes qui vous suivent à travers la République et en dehors.
Le message, c'est que le pape, il vient pour la paix, il vient nous visiter. C'est le vicaire de Jésus qui arrive chez nous. C'est le successeur de Pierre qui arrive chez nous. Il vient nous rendre visite. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne peut pas venir chez vous. S'il vient chez nous, c'est qu'il nous aime. Et moi, j'ai entendu plusieurs fois, à partir du Vatican, le pape parler de la République démocratique du Congo. C'est qu'il a vraiment de bons sentiments à notre égard. Il faudrait que nous prenions alors conscience du fait que si Sa Sainteté le pape quitte chez lui pour venir chez nous, il faudrait que nous, à notre tour, non seulement que nous puissions l'accueillir comme nous allons le faire la semaine prochaine, mais que nous puissions prendre conscience du fait que ce premier grand pays catholique d'Afrique, mais il est catholique, il a autant de ressources qu'on ne trouve pas beaucoup en Afrique. Mais comment expliquer que nos chrétiens continuent à rester pauvres, que tous nos croyants, pas nécessairement des chrétiens, tous ceux qui croient, ou même ceux qui ne croient pas, mais qui sont fils ou filles du pays, continuent à vivre dans la pauvreté. Que la visite que le pape va nous rendre demain soit pour nous l'occasion de faire de l'introspection. Pourquoi nous avons mal géré le pays jusqu'à ce jour? Est-ce que le moment n'est pas venu? Est-ce que l'heure n'a-t-elle pas sonné pour qu'aujourd'hui nous puissions nous repentir devant Dieu en disant « Seigneur, nous avons mal géré notre pays. » La preuve de la mauvaise gestion de notre pays, c'est la pauvreté de la population. C'est ça la preuve de la mauvaise gestion. Parce qu'un pays qui a autant de ressources, si les gens sont pauvres, ce qui fait qu'il n'y a que quelques personnes qui accaparent le gros de ressources. Donc, que nous puissions nous repentir, nous, les dirigeants, et que nous puissions alors amener, mobiliser toute la population à ce que, dans l'unité, unité dans la diversité, nous travaillions ensemble pour produire plus, pour faire en sorte que, non seulement les chrétiens, mais que tous les peuples de Dieu qui vivent au Congo puissent très bien se nourrir et s'épanouir comme il aurait dû le faire.
Professeur Florentin Mokonda Bonza, merci d'avoir reçu Grand Témoin chez vous.
Je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez offerte de pouvoir m'exprimer en cette veille de l'arrivée du souverain pontife dans notre pays.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Alain Hirung-Mouchinge, supervision Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter cette émission et bien d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bon week-end à tous, au revoir.